Philippe Besson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, également animateur télé, chroniqueur un peu partout, on va en reparler. Vous venez de publier votre 17e roman, toujours chez Julliard. Il s'appelle Arrête tes mensonges, et le paradoxe c'est que tout est vrai. Vous racontez votre histoire, votre première histoire d'amour, qu'on peut retrouver en filigrane dans tous vos livres, avec un épilogue dans ce roman assez incroyable. Qu'est-ce que vous pouvez raconter ?
Je peux raconter qu'il s'agit effectivement de l'histoire d'amour entre deux lycéens au milieu des années 80, quelque part dans une ville de province. Jusque-là, tout pourrait aller bien, sauf que ce sont deux garçons et que cet amour, il est voué au silence. Il est condamné à la clandestinité. Il doit rester secret pour éviter l'opprobre, l'injure, la violence.
Pourquoi vous parlez à la troisième personne alors que dans le livre, c'est je et c'est vous ? Pourquoi vous dites pas nous ?
Parce que j'essaie de me distancier de ça et j'allais y venir en disant simplement que l'un de ces deux jeunes lycéens est un fils de paysan,
ouais,
qui est voué à rester là, aux origines, à la terre. Et puis l'autre, c'est le fils d'un instituteur, un peu binoclard, avec des pulls jacquard et un peu tête à claque. Et celui-là, c'est moi.
Je sais pas comment dire ça, mais il y a un rebondissement assez incroyable. Qu'est-ce que vous pouvez raconter qui explique la raison pour laquelle vous n'avez jamais parlé de cette histoire auparavant ?
Parce que j'ai été rattrapé par le réel. Parce qu'à un moment, il y a quelqu'un comme ça qui surgit devant moi, des années après, pour me rapporter ce souvenir de jeunesse, qui frappe à ma porte de manière métaphorique et qui me dit « je viens vous donner des nouvelles de vos 17 ans ». Et à ce moment-là, je comprends la fin de cette histoire commencée des années plus tôt. Donc je peux écrire parce que je ne peux écrire un livre que quand j'en connais la fin.
Alors vous dites de vous-même, élève de terminale, aujourd'hui, je le giflerai, ce gamin de 17 ans. Pourquoi ?
Parce qu'à l'époque, il cherchait simplement à complaire à ses maîtres, à ses juges. Je portais pas véritablement une singularité, une différence. Enfin, j'en portais une, mais elle était secrète.
Non, mais la phrase « je le giflerais », c'est pas n'importe quelle phrase.
Oui, parce que je crois que je ne m'aimais pas beaucoup.
Ah oui ?
Non, je m'aimais pas beaucoup. D'ailleurs, ça m'est resté un peu. Je le comprends, hein, ce jeune homme. Il était timide, il avait peur de lui-même parfois, et surtout du regard des autres. Donc je le comprends, mais je le trouve pas totalement aimable.
Alors, ce qui est puissant dans l'histoire, c'est qu'on imagine qu'elle est vraie. Vous donnez même le nom de ce garçon, avec des précisions onomastiques sur le prénom Thomas et sur le nom de famille Andrieux. Pourquoi avoir mis le vrai nom et est-ce que vous avez demandé l'autorisation ?
C'est pas le vrai nom. Comme ça, vous avez votre réponse.
Bah mince alors.
Eh oui, je pouvais pas mettre le vrai nom pour des raisons qui sont évidentes.
Mais alors, pourquoi il y a ce paragraphe sur le nom, sur le Thomas et sur le Andrieux ?
Mais parce que le romancier revient de temps en temps. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand j'écris des vrais romans, je fais appel à mon imaginaire. Là, pour écrire ce livre-là, j'ai fait appel à ma mémoire. Mais c'est une mémoire, évidemment, qui, par certains aspects, est très exacte. D'autres aspects, elle est recomposée, fantasmatique. Et puis surtout, il y a cette volonté chez moi de ne blesser personne. Pour que justement, à la fin, on ne puisse rien reproché à ce livre.
Le livre marche bien, ça se mesure au fait que vous avez eu les honneurs de la chronique. Pourquoi ça marche dans Libération ? En général, c'est un livre qu'ils n'avaient pas vu venir, qui n'est pas tout à fait leur cam, mais qui ne peuvent pas se permettre de passer sous silence. Et Claire Devarieux écrit un récit que Philippe Besson affiche comme autobiographique et elle pose cette question dans un sous-chapitre « Est-ce authentique ?» Je vous le demande.
Oui, c'est authentique, c'est sincère, c'est intime. C'est un livre qui vient de loin, que j'ai mis des années à pouvoir écrire, encore une fois.
Je veux dire où je veux en venir, c'est que Claire Devarieux, la journaliste, relève une incohérence. Vous écrivez dans le roman au sujet de cette histoire, je n'en ai jamais parlé, sauf aujourd'hui, dans ce livre, pour la première fois. Or, deux pages plus loin, vous en parlez avec une amie qui se trouvait à la même soirée que Thomas et vous. Donc vous en avez déjà parlé.
Non, parce que cette amie qui s'appelle Nadine, qui existe toujours, qui est toujours mon amie d'ailleurs, elle comprend l'histoire. En fait, la force de cette jeune femme-là, dans l'hiver de mes 17 ans, c'est qu'elle voit sur moi quelque chose que je laisse échapper malgré moi.
Il y a quelque chose dont vous avez déjà parlé, un détail sur vous. Les élèves se moquent de vous, vous tiennent à distance au lycée. On constate que j'ai des gestes de fille parfois. Ma question est la suivante, pourquoi vous avez des gestes de fille ? Est-ce que c'est voulu par vous ou est-ce que ça vous échappe ?
Ça m'échappe, c'est-à-dire que j'ai compris encore une fois très jeune mon orientation sexuelle. J'en ai pas été catastrophé, ça n'a pas été une découverte effrayante pour moi. Mais j'étais effectivement plutôt efféminé quand j'étais enfant. Peut-être que je le suis toujours, mais je crois un peu moins.
Mais pourquoi vous ne corrigiez pas ce défaut ?
Il y a peut-être chez moi la volonté de ne pas corriger parce que ça serait se trahir. C'est-à-dire que à l'époque, en terminale, je ne vais pas jusqu'à me montrer avec des filles pour dire « vous avez vu, vous vous trompez sur mon compte ». Pas du tout, je ne me trahis pas.
Philippe Besson avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Le romancier Philippe Besson avec nous qui vient de publier « Arrête tes mensonges » chez Julliard. Vous venez pas de le publier, il a déjà été publié et ça se vend déjà très bien.
Mais oui. Je suis très content, c'est une vraie surprise. Je vois que le livre rencontre un grand succès, donc je suis très content.
Comment vous réagissez à la critique ?
Plutôt bien. Au début, je pouvais être blessé quand elle était méchante. Aujourd'hui, j'arrive, c'est le recul des années, c'est l'âge et c'est les livres, à avoir une sorte de sérénité. C'est-à-dire que je me dis que les très grandes louanges ne sont sans doute pas toutes justifiées et je crois que les assassinats absolus ne doivent pas l'être davantage.
Bec Bédé ou Patrick Besson, c'était des assassinats?
Ah, c'était méchant, oui, mais c'était d'ailleurs différent l'un et l'autre. Ça m'a plutôt fait rire quand c'était Patrick Besson, parce que je trouve qu'il a une plume féroce, mais assez drôle, ce qui n'est pas le cas de l'autre.
Février 2009, Philippe, écrit Patrick Besson, Philippe a inventé le roman gay à l'eau de rose. Tout le monde, il est bobo, tout le monde, il est gentillet. Il y a longtemps que je ne l'ai pas lu, mais t'en promis de ne plus me moquer des prosateurs contemporains, surtout les handicapés. Ça vous fait rire?
Oui, ça m'amuse plutôt. Ça me paraît un peu excessif. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est qu'on s'est un peu réconcilié, je crois, Patrick Besson et moi.
Il était fâché avec vous.
Il était fâché avec moi.
C'était pas vous qui étiez fâché.
Oui, moi je me fâche assez peu finalement. Mais il était fâché avec moi. Je crois que maintenant il m'aime plutôt bien. Ce qui m'inquiète.
Il avait écrit: Besson s'étonne que je le salue et que je lui souris dans les cocktails. N'était son petit air crispé et son regard fuyant chaque fois qu'il me voit. Je taillerais volontiers une bavette avec lui. Aucune loi, ajoute Patrick Besson, n'interdit d'être poli avec un auteur qu'on déteste. Waouh.
Oui. Non mais je reconnais encore une fois l'acidité de sa plume. Il sait bien écrire les descentes en flammes, oui.
Vous êtes acide vous aussi. Vous tenez une revue People dans les Échos. Pourquoi ce choix?
Parce que je trouve que c'est intéressant de traiter l'inanité de l'époque ou la vulgarité de l'époque. Quand je fais mes livres, j'ai vocation à faire un objet littéraire, ouais. Mais en même temps, je ne suis pas abstrait du monde, je ne suis pas en dehors du monde extérieur.
Vous connaissez la phrase de Jules Romain qui disait « Les esprits supérieurs discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les médiocres discutent des personnes ».
Non, je la connaissais pas, mais...
Elle est terrible. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, ça m'a frappé. Vous moquiez de Catherine Laborde qui prend sa retraite, non, à la météo, non. Et vous dites qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est parce que vous en parlez qu'on ne s'en fout pas.
Non, d'abord je ne me moque pas de Catherine Laborde. Pour le coup, moi je l'aimais beaucoup, bah Catherine, oui. Laborde, et je suis triste qu'elle s'en aille. Mais que ça devienne un événement où on vous dit « Attention, on va tout vous raconter sur les secrets de ce départ inattendu », en quoi un départ à la retraite à 65 ans est une bombe absolue dans le monde des médias? Je crois pas.
Et alors, vous êtes également capable d'écrire dans Paris Match sur Dalida, dans les Échos, grand portrait politique de Jean-Christophe Combadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Est-ce que vous êtes schizophrène? Vous avez déjà répondu un petit peu.
Oui, ça, je suis schizophrène, il n'y a aucun doute là-dessus, et peut-être même pire que ça, mais moi, j'aime bien aller sur des territoires où on ne m'attend pas et j'aime bien traiter de sujets extrêmement variés. Et puis surtout, j'aime bien qu'on ait un désir sur moi. Je m'explique. C'est-à-dire que j'aime bien quand quelqu'un vient me voir en me disant « Je pense que vous devriez écrire sur ça ». Et ma première réaction de me dire « C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas un sujet pour moi ». Et puis, je rentre dans le détail et je me dis « Finalement, c'est des personnages intéressants ». Cambadélis, c'est un personnage tellement complexe, tellement perché que ça m'intéressait d'aller comprendre ce qu'il est.
De 2010 à 2013, Philippe Besson, vous avez animé Paris Dernière sur la chaîne Paris Première, c'est leur émission culte. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment on pourrait définir ou qualifier l'émission?
C'était un road movie de la nuit, c'est-à-dire que je me baladais avec une caméra dans Paris, qui est une caméra subjective, et j'allais interroger dans des endroits interlopes, des cafés, des restaurants, des caves, des bordels, des personnalités de la nuit, des chanteurs, des acteurs, des actrices porno, voilà.
Alors quand on voyait ce qui était diffusé à l'antenne, on se demandait ce qui avait été coupé. C'est vous qui coupiez?
Oui, c'est moi qui coupais, oui.
Est-ce que vous n'êtes pas devenu dingue à force de présenter cette émission?
Ah non.
À force de découvrir que la normalité devient la normalité, est-ce qu'on ne devient pas zinzin?
Non, au contraire, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le monde de la nuit est protéiforme, comme des gens s'y dévoilent, s'y révèlent, comme effectivement dans les alcôves, il y a des identités secrètes comme ça, qui sont extrêmement intéressantes, et comme surtout, on est obligé de laisser tomber tous ces a priori. C'est-à-dire que, pour être très très clair, il y a des actrices porno extraordinairement intelligentes, intellectuelles, qui disent des choses formidablement pointues et subtiles. Et puis vous avez des comédiennes sur lesquelles vous fantasmez, où vous vous dites « elle va me dire des choses formidables » et elle vous dit que des banalités, elle enfonce des portes ouvertes et c'est tragique.
Philippe Besson avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. L'écrivain Philippe Besson avec nous, auteur chez Juilliard, il y a 18 livres, vous trouverez votre préféré. Est-il vrai que vous avez été 5 ans le bras droit de Laurence Parisot?
Absolument, de 1995 à 2000, mais c'était avant qu'elle ne soit présidente du MEDEF, c'est quand elle était à l'IFOP.
Oui, mais ce qui m'a étonné, vous m'avez dit que vous étiez schizophrène, mais qu'elle était plutôt classée à droite,
oui.
Alors que vous définissez comme un homme de gauche social-démocrate.
Oui, c'est vrai, mais c'est justement ça qui était habile chez elle, me semble-t-il, c'est d'avoir recruté quelqu'un qui ne lui ressemblait pas. Laurence, c'est quelqu'un qui cherche la contradiction, contrairement à l'image qu'elle peut véhiculer, et donc je pense qu'elle m'a choisi précisément parce qu'elle se disait « celui-là au moins, il ne va pas me servir la soupe ».
Est-il vrai que vous avez toujours, vous allez me dire, une émission sur la chaîne numéro 23 dans laquelle vous interrogez les hommes politiques dans un food truck?
Ça, c'est vrai.
Ouais.
Ça s'appelle Menu Président et on les interroge sur les questions de diversité, de discrimination, d'égalité des droits, etc.
Mais pourquoi un food truck? Je veux dire, pourquoi je vous pose la question? Parce que je vous ai entendu dire sur une radio concurrente que vous étiez contre la politique spectacle.
Mais c'est pas du spectacle, c'est l'idée.
Ah bon?
Non.
Ah, dis donc, le gars devant hot dog ou hamburger,
non.
C'est du spectacle.
Mais ça reprend, au fond, l'idée Paris Dernière, c'est-à-dire de mettre des gens hors sol. Quand vous interrogez un homme politique dans un studio, éclairé, maquillé, il va vous sortir de la langue de bois. Quand vous le filmez dehors, en train de vous répondre sur ce qu'il mange, parce que dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce qui tu es, ça donne des réponses un peu moins formatées.
Je vous le reproche pas, mais ça c'est de la politique spectacle.
Non, c'est de la politique vérité, j'espère. Et puis surtout, on l'interroge sur des questions sur lesquelles il n'a pas l'habitude d'être interrogé. Parce que vous avez beaucoup vu des hommes politiques interrogés sur les contrôles aux faciès, sur l'égalité homme-femme, sur le handicap. Moi, c'est ce que je fais.
Vous dites que vous partagez votre vie entre Paris et Los Angeles, vous confirmez ?
Oui.
Est-il vrai que parfois, vous disparaissez des semaines sans donner signe de vie ?
Ça, c'est vrai aussi, oui.
Où est-ce que vous partez ?
Je le dis pas. Et je débranche le téléphone.
Alors écoutez, moi j'ai eu l'info dans l'Express.
Oula.
Qui écrit ceci. En Italie, bien souvent, poursuivant le fantôme de quelques ragazzo, donc des mecs, des jeunes mecs, ou prenant ses quartiers dans un château toscan de 32 pièces appartenant à une riche veuve.
Alors,
ils n'ont pas pu l'inventer.
Ça, c'est, oui, c'est vrai dans les deux cas.
Attendez, vous êtes pote avec une riche veuve qui a un château de 32 pièces.
Je suis pas pote avec une riche veuve. C'est une dame qui héberge des écrivains européens qui viennent en retraite chez elle, au milieu de la campagne toscane, pour essayer d'écrire.
Mais c'est pas du tout la même chose. Là, on imagine quelqu'un avec Madame Bettencourt.
Ah, mais pas du tout. C'est une espèce de vieille baronne fantasque et désargentée dans un château en ruine.
Est-il vrai que votre bibliothèque est rangée par maison d'édition et ensuite par ordre alphabétique d'auteur ?
Oui, je suis super maniaque et puis ça me permet de trouver les livres beaucoup plus facilement.
Comment vous faites pour Houellebecq ou Philippe Jean qui ont changé d'éditeur ? Ils ont deux endroits ?
Non. Ils sont quand même dans le même endroit. C'est-à-dire que ce qui prévaut, c'est l'auteur.
Et Patrick Besson qui a 400 éditeurs ?
Eh ben, c'est Besson. Il est à côté de moi, tout près.
Est-il vrai que vous avez écrit à Pascal Sevran et qu'il vous a donné rendez-vous un soir, pas chez lui, devant chez lui, à 19h58 ?
C'est vrai. Et je suis arrivé à 19h56 et il m'a dit « Vous êtes arrivé 2 minutes trop tôt, rappelez-moi dans 2 minutes. » C'est ce que j'ai fait. Je l'ai rappelé 2 minutes plus tard. Et il est descendu à 19h58. Il m'a dit « Moi, je mange à 20h et nous mangeons à 2 minutes d'ici. » C'était ma première rencontre.
Est-il vrai que vous ne faites pas de sport ?
Ah, jamais.
Et comment vous faites pour avoir cette ligne de jeune homme ?
Je dois avoir une bonne constitution.
C'est pour ça que vous étiez maigre quand vous étiez ado.
Il m'en reste quelque chose, oui.
Et vous ne jouiez pas au foot ?
Pas du tout.
Est-il vrai que vous ne résistez pas quand vous passez devant une pâtisserie ?
Ça, c'est vrai aussi. J'ai un problème avec le sucre. C'est-à-dire, je peux ne pas manger de salé du tout, mais le sucré, c'est impossible. C'est-à-dire, je me baffre de pain en raisin, de tarte aux pommes, de n'importe quoi. C'est horrible.
Oui, mais si on rentre dans son jean, on s'en fout.
Oui, mais quand même, j'ai cru comprendre que c'était pas très très bien l'excès de sucre.
Est-il vrai que chez vous, vous avez retiré presque toutes les portes ?
Ça, c'est vrai, oui.
Et vous en racontez des trucs. Pourquoi vous racontez ça ?
On m'a posé la question en me disant, c'est étrange votre appartement parce que c'est très ouvert. Et c'est vrai que je n'aime pas ce qui arrête, j'aime pas les frontières. Donc.
Est-il vrai que chez vous, les volets comme les rideaux sont toujours ouverts ?
C'est vrai aussi, oui.
Et en été, le matin, le jour arrive à 5h du mat ?
Voilà, mais j'ai aucun problème avec ça, moi. Ah non, moi je m'en fiche, ça va très bien, oui.
Et les gens qui dorment chez vous ?
Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut évidemment, pour eux, prévoir des dispositifs particuliers. Oui. Ça s'appelle par exemple des masques Air France.
C'est ça le dispositif ?
C'est ça le dispositif.
C'est même pas l'idée de mettre des volets. Donc, les gens qui habitent en face de chez vous peuvent voir vos amants qui se baladent.
D'abord, j'ai pas d'amants qui se baladent. j'ai quelqu'un à domicile qui fait les choses très bien.
On fera pas mieux. Merci beaucoup, Philippe Besson, d'être venu nous voir.
Merci, Philippe Vandel.